Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h, juste après Vibrasos. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, vous avez même la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site graphite.net. Et puis vous nous suivez bien sûr sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment. La semaine dernière, nous avions une émission vraiment intéressante avec Soroche Samy qui était notre invité. Il est doctorant à l'UTC. Il nous expliquait à la fois son sujet de recherche, mais aussi il a réussi à pouvoir transmettre sa passion des sciences et le fait qu'il avait très très bien compris qu'il y avait un intérêt justement à parler de ces sujets de recherche pour susciter des vocations, pour partager un peu ses connaissances. Et c'était une superbe émission. Donc on n'avait pas eu le temps de voir un petit peu l'actualité scientifique de l'émission de la semaine d'avant, donc il y a 15 jours, hein, j'espère que vous arrivez à me suivre, il y a 15 jours, l'émission était tellement dense que je n'ai pas eu le temps d'évoquer pas mal de sujets que je souhaitais évoquer et qu'on va évoquer aujourd'hui. Ce sera un petit peu en décalage, c'est pas grave, mais voilà, on va un petit peu. Et puis je vous avais promis de parler de chats, et donc j'ai trouvé quelques articles scientifiques qui parlent de chats. Il y a pas mal de recherches sur nos amis les chats, et voilà, ce sera un petit peu le fil rouge de cette émission, bien sûr. Vous nous écoutez le samedi, mais également le mardi matin à 10h sur l'antenne de Graphite pour la rediffusion. Aujourd'hui, 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. C'est en l'honneur de la naissance de James Parkinson en 1795. Il est né le 11 avril, précisément 1795. Médecin, géologue, paléontologue, militant politique britannique. En tant que médecin, il a marqué, bien sûr, l'histoire de la neurologie pour avoir décrit avec précision. Nous sommes en 1817, hein, nous sommes dans le début du 19e siècle. Il a décrit avec précision une affection jusqu'alors méconnue dans un essai qui est intitulé An Essay of the Shaking Palsy. Shaking, donc le shaker, quelque chose qui bouge. Donc effectivement, oui, c'est lié à cette maladie. Cette maladie que Parkinson appelait à l'époque paralysis agitans, donc la paralysie agitante, donc eh bien cette idée de secousse entre guillemets, donc après sa mort, comme il avait découvert et décrit avec précision cette maladie, on a donc renommé cette maladie en son honneur, donc la maladie de Parkinson. Il y a pas mal on parle souvent encore dans cette émission de cette maladie de Parkinson, parce qu'il y a pas mal de recherches qui sont menées sur ce sujet-là. On n'a pas encore nécessairement abouti, bien évidemment, mais on voit très bien qu'il y a des pistes assez intéressantes qu'on évoque souvent dans cette émission au niveau de la maladie de Parkinson. Le 11 avril 1865, Louis Pasteur, autre grand nom scientifique, dépose son brevet sur la méthode de chauffage du vin. Il appelle ça la pasteurisation, parce qu'il prend le nom un petit peu, il prend son nom, et puis il est assez malin, il était bon en communication comme finalement Pasteur. La pasteurisation du vin 1865. Plus récemment, c'est le lancement de la mission lunaire habitée Apollo 13. Tiens, Apollo 13, ça nous dit quelque chose, oui, parce qu'il y a un film quand même assez célèbre qui expliquait justement les mésaventures d'Apollo 13. C'était le 11 avril 1970. Décès, enfin, le 11 avril 1886, de Prosper Antoine Payerne, médecin, pharmacien, ingénieur français. Il s'intéresse, Payerne, aux travaux réalisés par Robert Fulton, qui est un scientifique américain qui avait construit un espèce de prototype de sous-marin, mais qui était totalement inutilisable parce qu'il y avait une absence de système de régénération de l'air à l'intérieur de l'engin. Donc effectivement, c'était pas évident. Et en 1842, Prosper Antoine Payerne part en Angleterre, étudie un système de respiration autonome, et avec l'aide de l'Institut Polytechnique de Londres, il met au point son prototype de cloche à plongeur, c'est comme ça qu'il l'appelle à l'époque. De retour en France, il va déposer à la préfecture de Cherbourg le brevet d'invention de cette cloche hydraulique. Il consacre ensuite une partie de sa fortune à la réalisation de ce projet fou et surréaliste, à savoir le premier sous-marin jamais conçu dans le monde. Et c'est ainsi que le matin du 20 avril 1800, 1844, les Parisiens découvrent une étrange machine de forme cylindrique à la surface de la Seine et une foule de spectateurs qui se présentent pour observer un petit peu cela. C'est une vraie révolution scientifique. Ça mesure 9 mètres de long, c'est 2 mètres 80 de large, un poids de plus de 10 tonnes quand même. Et Payerne, ainsi que M. Poiré, qui est le délégué du ministre des Travaux publics, ils s'immergent dans le prototype pendant 3 heures sans le moindre apport d'air extérieur. C'est donc une réussite pour Payerne. Alors j'ai un peu l'impression que le nom de Payerne n'est pas passé à la prospérité par la suite. Enfin, on n'évoque plus du tout le nom de Prosper-Antoine Payerne. Mais voilà, il a véritablement révolutionné la construction des sous-marins avec ce premier sous-marin qui permettait d'avoir une régénération de l'air à l'intérieur. Nous sommes quand même dans les années 1840-1845. Il y a déjà quand même assez longtemps, bien évidemment. Mais grâce à cet éphéméride, eh bien, ça nous permet justement de pouvoir avoir une notion d'histoire, de temps, de chronologie. C'est ça qui est aussi intéressant. Quand on fait cette éphéméride, alors, tout début d'émission de Biotine, comme toutes les semaines, comme vous le savez, car vous êtes des fidèles de cette émission, bien évidemment. Alors, deux petits articles que j'avais pas eu le temps d'évoquer il y a 15 jours. Alors là, on est un petit peu hors délai, parce que le 14 mars, c'était la journée mondiale de Pi, le Pi Day. Pi, voilà, c'est ce chiffre qu'on mentionne comme 3,14. Et donc, nous, en France, le 14 mars, c'est 14,3. Et dans les pays anglo-saxons, on inverse le mois et le jour, et donc c'est 3,14. Et d'où l'idée qu'on garde le 14 mars comme étant la journée mondiale de Pi. Et en fait, c'est une histoire qui a déjà presque 4 millénaires. Le nombre Pi, qui est représenté donc par la lettre grecque du même nom en minuscule, hein, on connaît très bien cette lettre grecque Pi, c'est le rapport de la circonférence d'un cercle à son diamètre, qui est invariablement le même. C'est une véritable institution dans les constantes géométriques, et son succès tient autant à son utilité qu'à son large champ d'application. Il est impossible de concevoir une roue, un réservoir, un tunnel sans recourir à ce nombre Pi. Dans l'industrie, Pi permet de calculer la dimension des pièces ou les tolérances d'usinage. Il est également essentiel à la trigonométrie. Les systèmes GPS ont besoin de lui pour localiser un point sur la Terre avec précision. Et dès l'Antiquité, les mathématiciens ont cherché à connaître avec précision les décimales qui le composent. En 1900 avant Jésus-Christ, les tablettes babyloniennes de Suse fournissent l'une des plus anciennes approximations connues en donnant une valeur de pi qui est égale à 3,125 à partir de calculs d'aires de cercle. Puis en Égypte, hein, nous sommes vers 1600 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Apophis Ier, eh bien, le papyrus de Rhind, qui est rédigé par un scribe qui s'appelle Ames, eh bien, il utilise une formule de calcul de l'air d'un disque, hein, la surface d'un disque, et on est à pi égale 3,16. Donc on tourne un petit peu autour, bien sûr. Il faudra attendre la Grèce antique pour avoir le premier calcul théorique précis. Nous sommes vers 250 avant Jésus-Christ, en encadrant un cercle par des polygones à 96 côtés, et bien Archimède montre pour la première fois que pi est équivalent à 3,1416. Ah, ça y est, on commence à venir dans le bon chiffre, dans la bonne fourchette, entre guillemets. Il arrive donc, Archimède, à identifier 4 décimales, 4 chiffres après la virgule, qui sont justes. Un peu plus tard, 5e siècle après Jésus-Christ, le mathématicien et astronome chinois Zhu Chongzi franchit la barre des 6 décimales. Et 1000 ans plus tard, nous sommes en 1593, c'est un mathématicien français qui s'appelle François Viète. Il atteint 9 décimales exactes. Au XVIIe siècle, donc 200 ans plus tard, Newton porte ce chiffre à 15 chiffres après la virgule. On peine quand même, hein, mais on avance. Et tout change au XXe siècle, hein, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, le premier ordinateur entièrement électronique calcule plus de 2000 décimales. Le chiffre pi, il y a 2000 décimales, donc il y a 2000 chiffres après cette fameuse virgule du 3,14, ainsi de suite. Et à partir de là, tout va s'accélérer. En 1995, c'est un mathématicien japonais qui s'appelle Yasumasa Kanada. Il pousse jusqu'à 6 milliards. Après la virgule, 6 milliards de chiffres, il utilise un super calculateur pour ça, mais en tout cas, on y arrive. Et on arrive jusqu'à 206 milliards de chiffres. On n'arrive même pas à visualiser ce que ça peut être qu'un chiffre qui a 206 chiffres après la virgule. Eh bien ça se fait à la fin du XXe siècle, en 1999. Et ce qui est intéressant, c'est que le nombre pi vient de franchir un cap vertigineux dans sa quête de décimales, parce que plus ça va, plus on va de plus en plus loin. Aujourd'hui, l'intérêt majeur de cette course pour avoir le chiffre le plus précis, le plus exact de ce nombre pi, l'intérêt majeur, c'est de développer des algorithmes toujours plus efficace afin de repousser la limite des ordinateurs, car en réalité, il ne faut que quelques dizaines de décimales pour réaliser les opérations les plus courantes, donc on n'a pas besoin d'avoir les 2000 milliards de chiffres après la virgule pour avoir des calculs précis. Là, on est sur l'idée de pouvoir quelque part forcer les ordinateurs, pouvoir les booster, pouvoir les... justement essayer de repousser toutes ces limites. Et donc aujourd'hui, on en est à peu près à 200 000 milliards de décimales. Donc 3,14, et vous rajoutez après 200 000 milliards de chiffres. Je ne sais pas, alors évidemment on peut même mettre ça sur une feuille de papier. Est-ce que 200 000 milliards de chiffres après la virgule, je ne vois même pas ce que ça peut donner. Est-ce qu'il faut un mur entier quand on écrit? Je ne sais pas, ce serait une vraie question, tiens. On pourrait demander ça, qu'on puisse visualiser ça, mais voilà, ce chiffre pi. Et bon, voilà, c'était lié à cette journée du 14 mars, et je n'avais pas eu le temps encore d'évoquer cela dans des émissions antérieures. Autre sujet, c'est l'Agence spatiale européenne qui vient de lancer un programme qui s'appelle le projet Cassandra. L'idée, c'est de concevoir des structures qui sont capables de se régénérer seules. En d'autres termes, c'est des espèces de matériaux qui vont pouvoir se réparer tout seuls, de s'auto-réparer. Alors, ça peut se révéler vraiment utile, notamment pour des missions spatiales. Et pour arriver à ce résultat, l'Agence spatiale européenne travaille avec 3 entreprises qui cherche à essayer de mettre en œuvre une espèce de fibre de carbone qui pourrait se réparer automatiquement. Tout ça pour aboutir à des vaisseaux réutilisables plus facilement et plus endurants face à l'environnement hostile de l'espace. Le but de tout ça, c'est d'éviter d'avoir affaire aux craquelures qui frappent souvent les polymères utilisés pour la conception de sondes spatiales. Ces matériaux, ils sont résistants, ils sont légers, ce qui les rend extrêmement populaires dans l'industrie, mais ils ne sont pas non plus indestructibles, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Et donc, dans cette optique, il y a donc une entreprise suisse qui s'appelle Comper, qui a conçu un matériau, et le principe, c'est d'inclure dans les polymères un agent qui va lui permettre de pouvoir se réparer tout seul, et cette fonction va pouvoir se déclencher sous l'effet de la chaleur. Il y a un prototype qui a été conçu, qui montre des résultats assez satisfaisants, parce que s'il est chauffé à plus de 100 degrés, les molécules vont se réorganiser toutes seules pour essayer et pour parvenir à faire disparaître les craquelures. Alors pour l'instant, cela n'a pu être testé que sur des échantillons de quelques dizaines de centimètres, mais l'objectif, c'est de réaliser prochainement des phases d'essai nouvelles, sur des structures un peu plus grandes, et notamment des structures d'une taille comparable à celle des sondes qui voleraient dans l'espace. L'Agence spatiale européenne compte beaucoup sur ce genre d'innovation pour construire des lanceurs qui seraient réutilisables, et avec des matériaux plus durables, le coût des lancements serait revu largement à la baisse, donc il y a quand même un intérêt économique derrière qui est assez intéressant. Et depuis 2023, il y a un programme qui s'appelle FIRST, qui est mené toujours par l'Agence spatiale européenne, qui s'intéresse de très près à ces technologies. Alors, il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées. La plus répandue, c'est l'espèce de structure en sandwich, c'est-à-dire qu'il y a différentes couches. Il y a deux couches de matériaux solides qui sont assez classiques et il y a une espèce de résine qui va un petit peu les enrober et cette résine va pouvoir justement avoir cette faculté de pouvoir s'auto-réparer à la surface. Cette façon de faire, elle peut être particulièrement utile, mais alors attention, il y a quand même le risque du vide spatial qui fait que ces structures en sandwich, elles sont pas nécessairement, comment dire, en bonne condition. Donc on a de plus en plus de projets de recherche qui sont lancés pour avoir ces espèces de matériaux qui permettraient justement aux vaisseaux spatiaux de pouvoir se réparer eux-mêmes. Donc là, vous avez bien compris qu'on est sur des petites échelles, encore on est sur des petits échantillons, mais si on arrive sur des petits échantillons à avoir des choses qui sont assez performantes, on se dit qu'à plus grande échelle, et donc à l'échelle des sondes, voire à l'échelle des vaisseaux spatiaux, eh bien on pourrait avoir des choses innovantes, totalement efficaces, bien évidemment. Donc c'est intéressant d'aborder aussi le thème du spatial par le biais des matériaux, parce que ce n'est pas souvent un sujet qu'on évoque dans cette émission, mais il faut bien comprendre que derrière tout ça, il peut y avoir aussi des applications concrètes sur Terre, bien évidemment. Car si on arrive à avoir des matériaux qui se réparent tout seuls, c'est un peu ça l'image, et puis c'est un peu ça la finalité aussi. On aurait des applications assez importantes qui toucheraient différents domaines, bien évidemment. Donc, une piste assez intéressante, et donc l'Agence spatiale européenne qui a communiqué, et c'était pareil, je pense qu'il devait y avoir 3-4 semaines, et on n'avait pas eu le temps d'évoquer également ce sujet. Voilà, c'est ça que je voulais faire pour cette émission. Allez, on écoute un peu de musique, et puis on va ensemble feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite, à tout de suite. Oh, I've got the magic in you. You put the magic into me. I've got the magic in you. You put the magic in me. I say, oh yeah. I say, oh, now I've got Ça, c'est un titre qui a toute sa place dans l'émission Biotine de Graphite. Ça s'appelle Science and Reason, Science et Raison. Et c'était Drums of Death sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Science et Avenir est une revue de vulgarisation scientifique, un mensuel que je vous invite à consulter régulièrement, parce qu'il y a des sujets de fond assez intéressants et des petites brèves aussi qui nous permettent d'être tenus au courant de différents sujets scientifiques, et notamment au niveau médical. C'est assez intéressant cet article que l'on trouve concernant l'appendicite. 10 ans après avoir reçu un traitement antibiotique pour une appendicite aiguë sans complications, plus de la moitié des patients n'ont pas eu de récidive ni besoin d'être opérés pour cette indication. C'est ce que montre une équipe finlandaise de l'université de Turku. Depuis ces travaux pionniers, il s'avère qu'après une vérification par échographie ou scanner du caractère simple de l'appendicite, un traitement antibiotique d'une semaine peut suffire à la soigner. Cette approche, elle permet de réduire fortement les frais liés à une hospitalisation pour une appendicite sectomie, et aussi ça permet d'éviter de recourir au service des urgences, je vais y arriver, c'est ce que soulignent les auteurs dans la revue médicale américaine JAMA. Mais ils expliquent, cependant, l'étude montre aussi que près d'un tiers de ces patients risquent de faire une appendicite dans les 5 ans. Et c'est pour cela que les recommandations françaises positionnent toujours la chirurgie comme le traitement de première intention pour l'appendicite simple. C'est ce que précise Maxime Collard, chirurgien à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui est donc interviewé par Science et Avenir. Alors, cette opération, elle s'est aussi allégée quand même depuis quelques années. Elle se pratique le plus souvent par voie mini-invasive sous colioscopie, avec donc l'avantage de ne laisser qu'une petite cicatrice et de causer moins de douleurs post-opératoires. De plus, maintenant, cette opération est souvent effectuée en ambulatoire. Cette prise en charge moins lourde est en cours d'évaluation dans le pays, car elle réduit aussi les coûts de l'hospitalisation. C'est ce qu'explique donc ce spécialiste. Et son caractère définitif permet enfin d'éviter aux patients l'incertitude liée à une possible récidive. Donc le traitement antibiotique peut néanmoins être utilisé dans certains cas, par exemple à titre préventif, si la chirurgie ne peut pas être pratiquée rapidement après la crise d'appendicite, mais elle s'avère exclue chez la femme enceinte car elle présente un risque avéré d'induire une fausse couche, c'est ce que prévient le praticien. Donc voilà. Un petit peu d'ambiguïté, ou en tout cas, ils ne sont pas nécessairement tous d'accord concernant ces antibiotiques qui permettraient de guérir l'appendicite. Là, on est quand même sur des choses qui ne sont pas encore totalement bien abouties, mais voilà, ça peut être des pistes qui peuvent être intéressantes. On parle de tomates également dans Science et Avenir. Il y a certaines variétés de tomates qui sont capables d'alerter les plants voisins lorsqu'elles sont attaquées par des aleurodes. Les aleurodes sont des mouches blanches et qui sont infectées par des virus. C'est une étude menée par l'université de Hangzhou en Chine qui explique cela. Si l'insecte est porteur de virus, la plante, elle émet rapidement du bêta-caryophyllène. C'est une espèce de signal un peu volatile qui va préparer ses voisines à déclencher une réponse antivirale accrue. C'est quand même assez formidable. Cette mobilisation, elle limite fortement la propagation du pathogène et elle permet de préserver la production de graines. Les expériences ont montré que le signal n'était pas émis si cette mouche n'était pas infectée. C'est uniquement quand la mouche est infectée du virus qu'il y a cette espèce d'émanation qui a lieu. Si elle n'est pas infectée, bien dans ce cas, la plante se défend néanmoins directement en émettant un autre composé qui n'est pas encore identifié, nous dit-on, qui attire une guêpe parasitoïde qui va, elle, pouvoir être intéressé pour manger ces fameuses mouches blanches, quand même assez fascinant. Toutes les variétés ne possèdent pas cette stratégie, mais les auteurs suggèrent qu'elles pourraient être diffusées par croisement avec les lignées résistantes identifiées. Ce travail représente une avancée majeure en démontrant qu'il est possible d'obtenir des plantes qui résisteront aux insectes vecteurs en attirant leurs prédateurs. Donc il n'y aurait plus besoin d'avoir des insecticides, on aurait les tomates qui vont émettre un signal, donc apparemment un signal olfactif qui va pouvoir être perçu par les prédateurs de ces mouches blanches. C'est ce que explique la spécialiste Véronique Brault de l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans Science et Avenir. Puis il y a d'autres petites brèves également qui sont assez intéressantes au niveau robotique. Deux choses d'ailleurs robotiques. La première, ce sont des chercheurs américains qui ont conçu les plus petits robots autonomes programmables jamais réalisés. Ils mesurent 200 micromètres sur 300. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus petit qu'un grain de sel. Ces micro-machines sont alimentées par la lumière, elles intègrent des calculs, des capteurs, de la propulsion, elles sont capables d'évoluer à l'air libre, elles sont capables également d'évoluer en milieu liquide, et ces dispositifs pourraient servir à la microchirurgie, à la surveillance des cellules ou à des applications industrielles pour la fabrication de dispositifs miniaturisés. C'est quand même assez fascinant, et c'est l'université de Pennsylvanie aux États-Unis qui a travaillé sur ces robots plus petit qu'un grain de sel. Et autre sujet de robot, c'est une main robotique qui a également été développée et qui est plus habile que nos propres mains humaines, permettrait ainsi d'attraper une carte, de faire tournoyer un stylo, de manipuler des objets fragiles. Et bien cette nouvelle main robotique, elle accomplit ses gestes avec une agilité qui dépasse celle d'une main humaine. Elle est dotée de capteurs précis et elle est pilotée par des algorithmes d'apprentissage et elle ajuste en temps réel la force et la coordination. Il y a une vidéo de démonstration assez impressionnante qui montre cette prouesse que vous pouvez trouver sur Internet, sur cette main robotique que vous pouvez voir. C'est assez fascinant, bien évidemment. Donc voilà des petites brèves que l'on peut trouver dans Science et Avenir du mois d'avril, du mois de mars ou d'avril. Non, je crois que c'est du mois d'avril, il me semble. Voilà, mais c'est toujours intéressant de feuilleter ces revues de vulgarisation scientifique parce que ça permet voilà, de pouvoir avoir un accès à l'information scientifique de façon vraiment adaptée parce qu'il y a des infographies et une maquette qui est lisible, des textes qui sont adaptés au niveau du vocabulaire. Donc je ne peux que vous inciter à consulter régulièrement ces revues de vulgarisation scientifique. Alors, pas mal d'articles, hein, je vous l'avais promis depuis 15 jours, sur les chats, parce que je ne sais pas pourquoi, mais sur Futura Science, qui est un site aussi vraiment intéressant que je vous invite à consulter, parce que leurs articles scientifiques sont bien écrits, les illustrations sont vraiment intéressantes et ça aborde tous les sujets scientifiques, techniques, médicaux. Il y a vraiment pour tous les goûts et justement ça nous permet d'avoir un panorama assez large de connaissances scientifiques abordables. Donc sur le site de Futura Science, il y a eu plusieurs articles récemment sur les chats. Alors, je ne sais pas pourquoi, à quoi c'est dû, mais pas mal de choses qui ont été, travaillées sur les chats. Alors, je suis en train de chercher, voilà, je vois le premier. Par exemple, il y a des chercheurs qui révèlent le signal magique que les chats adorent. L'idée, justement, de cette réputation d'indépendance des chats, qui cache souvent une réalité plus complexe. Ces animaux cherchent à communiquer avec nous, mais nous ne décodons pas toujours leurs signaux. Il y a des recherches scientifiques qui ont mis en lumière une méthode efficace pour établir un véritable dialogue avec nos chats domestiques. Cette technique du clin d'œil lent constitue une percée majeure dans notre compréhension du comportement du chat et offre une nouvelle façon d'interagir avec nos compagnons à fourrure. Les chats utilisent un langage corporel subtil que les humains interprètent parfois mal. Et contrairement aux chiens qui manifestent leur affection de façon démonstrative, les félins privilégient des signaux plus discrets. Alors, il y a des recherches qui ont été publiées depuis plusieurs années qui ont confirmé l'importance du clignement des yeux de façon lente dans le répertoire communicatif félin. Karen McComb, qui est psychologue à l'université du Sussex et qui aussi est propriétaire de chats, elle explique « C'est formidable de pouvoir attester scientifiquement que les chats et les humains peuvent communiquer de cette façon. Et cette découverte valide ce que de nombreux amoureux de chats soupçonnaient déjà intuitivement. Les félins plissent naturellement leurs yeux et clignent lentement » lorsqu'ils se sentent détendus et satisfaits, et cette expression faciale rappelle le plissement des yeux humains pendant un sourire et constitue l'équivalent félin d'une expression plutôt amicale. Et donc, pour établir une connexion plus profonde avec votre chat, vous pouvez facilement adopter cette technique donc, du clin d'œil lent. Les chercheurs ont identifié un protocole simple mais efficace pour communiquer avec les chats à travers ce langage non verbal. Donc, voici les étapes à suivre. Donc, en plus, si vous avez un chat, là, vous allez pouvoir le faire en direct. Vous placez-vous à environ un mètre de votre chat lorsqu'il est détendu. Effectivement, il faut qu'il soit détendu au départ. Attendez que votre chat vous regarde directement. Plissez légèrement vos yeux, comme lors d'un sourire détendu. Fermez lentement vos paupières pendant quelques secondes. Ouvrez doucement vos yeux et observez la réaction de votre chat. Et bien, cette séquence, elle imite le comportement naturel des félins entre eux et elle envoie un message clair. Je ne représente aucune menace et je suis ouvert à l'interaction. C'est ce que le chat comprend. D'après les expériences qui ont été menées, et bien, les chats répondent généralement par le même type de clignement, initiant ainsi une forme de conversation non verbale. Et pour valider cette méthode de communication, les chercheurs ont conduit deux expériences distinctes. La première, elle impliquait 21 chats et leurs propriétaires dans un environnement familier. Les résultats ont démontré que les félins étaient significativement plus enclins à répondre par un clignement lent après que leurs humains a initié ce comportement. Et puis la seconde expérience, qui est encore plus révélatrice, elle fait intervenir des chercheurs inconnus des chats. Et ces scientifiques, ils ont interagi avec 24 chats issus de 8 foyers différents. Alors non seulement les chats ont répondu au clignement lent initié par des personnes étrangères pour eux, et ils se sont également montrés plus disposés à s'approcher de la main tendue d'un humain qui avait pratiqué cette technique. Alors, Tasmin Humphrey, psychologue de l'université de Sussex, souligne l'importance de ces découvertes. Comprendre les interactions positives entre chats et humains peut améliorer la compréhension publique des félins, leur bien-être, et nous permet d'en apprendre davantage sur les capacités socio-cognitives de cette espèce trop peu étudiée, c'est ce qu'il nous dit. Les chats ne sont finalement pas un sujet de recherche assez important, ce qui semble assez étonnant, mais c'est ce qu'il nous raconte. Les implications de cette découverte, dont les travaux de recherche ont été publiés dans la revue Scientific Reports, eh bien, ces implications vont au-delà d'une simple curiosité scientifique. Cette technique pourrait s'avérer particulièrement utile dans des contextes stressants pour les chats, comme les visites vétérinaires ou les séjours en refuge, et les professionnels travaillant avec des félins pourraient l'utiliser pour évaluer leur bien-être et faciliter les interactions. Les recherches récentes, elles ont démontré que les chats sont beaucoup plus attentifs à leurs compagnons humains qu'on ne le pensait auparavant. Ils reflètent souvent les traits de personnalité de leurs propriétaires et peuvent détecter leurs émotions, notamment la tristesse. Et contrairement aux idées reçues, les liens qu'ils développent avec leurs humains sont profonds et significatifs. Donc le langage des yeux, ça représente comme une porte d'entrée vers une meilleure compréhension mutuelle et un renforcement de la relation avec le chat. Donc, vous pourrez essayer de tester ce clin d'œil lent. Vous fermez doucement la paupière, vous l'ouvrez doucement votre œil et quand votre chat vous regarde, et vous verrez ce que ça va donner également, vous serez peut-être surpris par la conversation qui pourra suivre. J'essaierai. Moi, j'ai pas de chat, mais dès que je trouve un chat qui est plutôt détendu, j'essaierai de faire ça et je verrai ce que ça donnera par la suite. Voilà, ça, c'était l'un des articles sur les chats que je vous avais promis. Il y en a d'autres articles que l'on va pouvoir découvrir tout à l'heure, juste après ce nouveau titre que nous allons écouter sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Some time. Vertigo, c'était Nick Hakim sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau.
Oh là là, il y a des jours comme ça, j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est quand même. Je suis désolé, hein. Je fais pas exprès, mais il y a des moments, je sais pas, je pense que mon cerveau me dit t'en fais trop, ou tu veux dire trop de mots en même temps, je ne sais pas. Allez, on continue à feuilleter cette revue de presse scientifique sur les chats, parce que je vous l'avais promis, donc on va pouvoir avancer un petit peu sur les chats. Alors, il y avait la question de savoir, est-ce qu'un chat sans jardin, pareil, c'est pas facile à dire ça aussi, un chat sans jardin peut-il vraiment être heureux? C'est une vraie question, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas vraiment la taille de l'espace qui compte pour un chat, mais plutôt sa qualité. Katia Guillet, elle est comportementaliste félin renommée, elle souligne l'importance de l'aménagement et de l'enrichissement quotidien de l'environnement du chat. Un appartement bien pensé peut offrir tout ce dont un félin a besoin pour s'épanouir pleinement. L'essentiel, c'est de créer des zones dédiées aux différentes activités naturelles du chat. Des espaces en hauteur pour observer son territoire, des coins douillets pour se reposer, des aires de jeu pour se dépenser, tout ça eh bien, va pouvoir contribuer à son bien-être. N'oublions pas que même les chats ayant accès à l'extérieur apprécient un intérieur stimulant et confortable. Les chats, ils adorent grimper, observer l'environnement depuis les hauteurs. Exploiter la verticalité de l'appartement est donc essentiel pour leur offrir un cadre de vie épanouissant. Nul besoin de travaux coûteux. Il y a des solutions simples et ingénieuses qui existent pour satisfaire ce besoin naturel d'exploration verticale. Par exemple, permettre à votre chat d'accéder au sommet des meubles de cuisine peut lui offrir un poste d'observation idéal. Une petite échelle en bois qui est facilement réalisable, ça peut transformer l'intérieur en un véritable terrain d'aventure pour les chats. Et l'épanouissement d'un chat en appartement ne nécessite pas forcément d'investissement onéreux. Il faut avoir une espèce de créativité et puis procéder au recyclage qui peuvent être les meilleurs alliés pour divertir le chat. Un simple carton vide peut devenir une cachette fascinante pour lui, on a déjà tous vu ça. Et les objets du quotidien, comme des lacets de chaussures, peuvent se transformer en jouets passionnants. Au-delà de l'aménagement et des jouets, l'interaction avec les humains joue un rôle crucial dans le bonheur d'un chat d'intérieur. Des séances de jeu régulières, des moments de câlin et d'attention, tout ça est essentiel pour le bien-être mental et émotionnel. Ces interactions compensent largement l'absence de sortie et ça renforce le lien affectif entre le chat et son propriétaire. Ne pas oublier que chaque chat est unique, hein, observez ses préférences, adaptez votre approche en conséquence. Certains vont apprécier des jeux plus calmes, tandis que d'autres vont avoir plutôt intérêt à avoir des séances de jeux plus dynamiques. L'essentiel est de maintenir une routine enrichissante et variée qui stimule tous les sens. Donc un chat peut être épanoui pleinement en appartement, c'est ça qui est intéressant dans cette étude, l'enrichissement de son environnement, l'exploitation intelligente de l'espace, la créativité dans les jeux, une interaction humaine régulière, eh bien, ce sont les ingrédients d'une vie heureuse pour le chat, même en appartement, et donc en adaptant votre intérieur à ses besoins, eh bien, vous pourrez transformer votre appartement en un véritable paradis pour chat, ce qui prouve qu'un espace restreint peut être synonyme de bonheur félin, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir un jardin pour les chats, heureusement, parce qu'il y a tellement de chats en appartement, heureusement qu'on apprend qu'ils sont finalement bien heureux, si tout va bien. Autre question qu'on se pose, pourquoi les chats retombent sur leurs pattes? Eh bien, il y a une étude claire, une étude qui éclaire enfin ce mécanisme. Et donc, cette étude permet d'en apprendre un petit peu plus. En fait, on sait que ça retombe toujours sur les pattes et il y a toujours, enfin, on peut voir même sur les réseaux sociaux où on a tous vu ou entendu, voilà, que même le chat d'une chute assez importante arrivait à retomber sur ses pattes. Les scientifiques, eux, espèrent depuis très longtemps, parce que les premiers débats à ce sujet, ça remonterait au début du 18e siècle quand même, ils espèrent comprendre le mécanisme qui se cache derrière cette prouesse. Avoir une paire de pattes repliées pour faire pivoter le corps, des pattes étendues ou pliées à l'image de ce que fait un patineur sur glace par exemple, une inclinaison au niveau de la taille, une queue qui, comme une hélice, permet de redresser l'animal. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été explorées au fil du temps. Il y a eu un physicien à l'université de Caroline du Nord qui avait finalement suggéré que la vérité se cachait sans doute dans une savante combinaison d'un petit peu toutes ces idées. Alors pourquoi un chat tombe-t-il généralement sur ses pattes ? La question restait en suspens. Eh bien, des chercheurs de l'université de Yamaguchi au Japon ont mis toutes les chances de leur côté pour percer enfin le mystère. Ils ont très classiquement étudié des images de chats. En fait, il est laissé tomber, les chats, alors il est laissé tomber sur des coussins moelleux, nous dit-on, heureusement, et ils ont analysé la colonne vertébrale de 5 chats morts qui ont été donnés à la science. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert que différentes parties de la colonne vertébrale du chat peuvent se tordre différemment pour lui permettre d'atterrir sur ses pattes. Dans la revue The Anatomical Record, en fait, ces chercheurs japonais détaillent comment ils ont séparé la partie haute et milieu, c'est-à-dire la zone thoracique, des colonnes dont ils disposaient de la partie basse, c'est-à-dire la colonne lombaire. Et ensuite, ils ont procédé à des tests de torsion pour mesurer la flexibilité et la résistance à la rotation de chacune de ces parties. Sur les chats vivants, les mouvements des différentes parties du corps ont pu être suivis grâce à des marqueurs placés sur les épaules et les hanches des félins. Et ils les ont filmés, donc ils ont pu avoir une finesse dans les mouvements qui ont été faits sur ces zones-là, ce qui permettait de révéler enfin les pouvoirs extraordinaires du corps des chats. Les chercheurs rapportent que la colonne thoracique est incroyablement flexible. Ils ont même défini une zone qui peut se mouvoir presque librement sur une amplitude de rotation de près de 50 degrés, ce qui est quand même assez important, le tout sans effort. C'est ça qui est aussi assez intéressant. La colonne lombaire, quant à elle, elle apparaît beaucoup plus rigide et donc elle va jouer un rôle de stabilisateur. Alors que se passe-t-il quand un chat tombe ? Eh bien, l'animal fait d'abord pivoter la tête et les pattes avant vers le sol. C'est la flexibilité de sa colonne thoracique qui lui permet d'y arriver. Et donc, combiné à la légèreté relative de l'avant de son corps, puis autour de l'arrière du corps qui va être sollicité, la rigidité de la colonne lombaire, ça va permettre d'avoir comme une espèce d'ancrage solide, et ça permet de faire pivoter brusquement sans perdre le contrôle du corps. C'est ça qui est quand même assez fascinant. Donc, y a des vidéos qui existent et qui expliquent un petit peu tout cela, parce que comme ils ont pu modéliser un petit peu tous ces mouvements, ils ont essayé de mieux comprendre pourquoi, grâce à des modèles mathématiques du mouvement animal, ils ont essayé d'aider les vétérinaires à traiter les lésions médulaires et même permettre la conception de robots plus agiles. Parce qu'effectivement, si on aurait des robots qui pourraient, comment dire, s'approprier cette faculté qu'ont les chats retombés sur leurs pattes, ça pourrait permettre d'avoir des résolutions en termes de stabilité, par exemple. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur pourquoi les chats retombent sur leurs pattes. Merci à cette équipe donc de l'université de Yamaguchi au Japon qui nous apporte ces précisions. Mais oui, mais avant, on ne le savait pas. Maintenant, on le sait. Nous sommes très contents. Nous sommes satisfaits de cette information. On va écouter un dernier titre. Tiens, on va écouter Louise Attaque. Il y a longtemps qu'on n'a pas écouté Louise Attaque. Mais j'ai vu qu'on avait ce titre dans la playlist qui nous est fournie sur Graphite. Et puis, on va bientôt se quitter et de feuilleter les dernières pages de cette revue de presse de l'actualité scientifique. Vous êtes bien sur Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM. Graphite.net sur Internet. À tout de suite.
que t'aies voulu. Je te donne la plume, moi j'en veux plus. Je te donne la plume pour savoir vivre, parler. Donne la plume et mes conneries, garde-les. Voilà une heure que je t'attends, voilà mon cœur prudence en sortant. Compte les heures depuis longtemps, est revenu mon cœur déposer en sortant. Donne la plume pour que t'inscrives perpétuellement la vie à construire. Ce mouvement si dur, je te donne la plume, moi j'en veux plus. Voilà une heure que je t'attends, voilà mon cœur prudence en sortant. Comptez les heures depuis longtemps, est revenu mon cœur déposer en sortant.
Ça fait plaisir d'écouter Louise Attaque, c'était La Plume sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Guillotine, sur Graphite.
Et puis on va continuer, hein, feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique des chats, parce que c'est un petit peu le fil rouge. J'ai encore trouvé des articles, en fait il y en a plein en ce moment sur les chats, notamment cette découverte publiée dans la revue Communications Biology il y a quelques mois, qui révèle l'une des récupérations les plus spectaculaires de la conservation moderne. Le pigeon à tête rouge des îles Ogasawara, c'est une espèce endémique critique, a démontré une résilience génétique exceptionnelle après la suppression de ses principaux prédateurs. L'étude menée par l'université de Kyoto bouleverse notre compréhension des populations en danger et ça ouvre des nouvelles perspectives pour la sauvegarde des espèces menacées. Le pigeon à tête rouge, il mesure environ 40 cm et il arbore un plumage distinctif. Sa tête rousse contraste avec un corps plutôt gris-brun. Ça crée une silhouette reconnaissable dans les forêts matures qui l'affectionnent et cette sous-espèce se distingue génétiquement et écologiquement du pigeon ramier japonais qui est plus commun, qu'on connaît plus nous dans nos contrées. Alors ils étaient autrefois nombreux hein, sur les îles Ogasawara. Et ces oiseaux ont subi un déclin dramatique à partir de la fin du XXe siècle. La destruction forestière, l'introduction de chats sauvages, tout ça, ça a précipité leur chute vers l'extinction. En 2008, moins de 80 individus survivaient, ce qui plaçait bien sûr l'espèce dans une situation critique. Les îles Ogasawara, c'est un archipel isolé du Pacifique et ces îles abritent un écosystème fragile depuis des millénaires. Et donc l'arrivée d'espèces invasives, ça a bouleversé l'équilibre naturel, ça a menacé la biodiversité unique de cette région qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et face à cette urgence écologique, les conversationnistes les conservationnistes, pardon, ont lancé une campagne de piégeage intensif en 2010 sur l'île de Shishijima. Et cette intervention ciblait spécifiquement les chats. Les chats qui décimaient les populations de pigeons par prédation directe, c'est-à-dire qu'il les bouffait directement en clair. Et donc, entre 2010 et 2013, l'opération a permis de capturer 131 chats sauvages, ce qui a réduit de façon drastique leur nombre à moins de 20 chats. Cette diminution de la pression prédatrice a créé les conditions nécessaires à la récupération de l'espèce qui était menacée au niveau des pigeons. Les résultats ont dépassé toutes les espérances parce que durant cette même période, la population de pigeons adultes est passée de 111 à presque 1000, tandis que les adultes, les pigeons jeunes ont bondi de 9 à 189. Et donc cette croissance exponentielle représente l'une des récupérations les plus rapides jamais documentées pour une espèce au bord de l'extinction. Traditionnellement, les populations réduites souffrent de consanguinité et ça accumule bien sûr des mutations génétiques délétères. Et donc cette dégradation génétique, elle complique de façon assez générale la récupération, même avec des mesures de conservation intensive. Pourtant, eh bien, le pigeon à tête rouge a défié cette règle établie et l'équipe donc de Daiichi Tsujimoto qui a séquencé les génomes complets des pigeons sauvages et captifs pour essayer d'étudier et de comprendre un petit peu ce mystère, a fait des analyses. Les analyses ont révélé une fréquence étonnamment faible de mutations hautement dommageables comparées aux espèces apparentées les plus répandues. Cette résilience génétique, elle résulte d'un processus qu'on appelle purge génétique survenue sur plusieurs siècles. L'isolement prolongé de la population, eh bien, ça a progressivement éliminé les mutations nocives par consanguinité graduelle, ce qui va créer un patrimoine génétique un peu nettoyé, entre guillemets, et plus robuste. Et donc, les chercheurs identifient plusieurs facteurs clés de cette adaptation, l'isolement géographique prolongé qui va favoriser la sélection naturelle, la population historiquement restreinte mais stable, l'élimination progressive des allèles délétères, alors les allèles c'est ce qu'il y a au niveau des gènes, donc on va dire des gènes défectueux entre guillemets, la conservation d'une diversité génétique fonctionnelle minimale et des perspectives pour la conservation. Et malgré ce succès remarquable, la situation reste fragile, les effectifs actuels demeurent inférieurs au niveau historique, ce qui limite un petit peu la capacité d'adaptation future aux changements environnementaux à venir. La diversité génétique réduite pourrait compromettre la résistance à de nouveaux défis écologiques. Alors cette découverte remet en question certaines approches conservatoires assez traditionnelles, et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'elle prouve que dans certaines conditions spécifiques, eh bien, les petites populations peuvent développer des mécanismes adaptatifs permettant de surmonter un petit peu des goulots d'étranglement démographique. Et l'étude, elle ouvre aussi de nouvelles voies pour la gestion des espèces menacées. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ça suggère qu'une analyse génétique approfondie pourrait identifier les populations qui possèdent une résilience naturelle similaire. Donc le pigeon à tête rouge des îles Ogasawara, ça illustre parfaitement comment une intervention ciblée peut déclencher une récupération spectaculaire lorsque les conditions génétiques s'y prêtent. Et donc là, on avait retiré les chats de cette île et puis voilà, on a eu quelque chose d'assez, comment dire, d'assez évident quelque part, mais que l'on a pu quantifier et qui permet voilà, un petit peu d'avoir une analyse de ce qui concerne la conservation des espèces en danger, bien évidemment. Donc là, ce n'était pas directement les chats qu'on évoquait, mais c'était plutôt les pigeons à tête rouge. Mais voilà, les chats étaient indirectement impliqués dans cet article que j'avais donc identifié dans Futura Science. Voilà, c'était un petit peu les chats qui étaient le fil rouge de cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. On va se quitter sur cette... Oui, parce qu'après, je pense que les articles vont être un petit peu trop longs et comme on arrive presque à la fin de cette heure, eh bien, je vais être obligé de rendre l'antenne. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, entre 12h et 13h, eh bien, nous feuilletons comme ça la revue de presse de l'actualité scientifique pour se tenir informés de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'on voit très bien que ça bouge dans différents domaines. On aborde bien sûr la médecine, les technologies, l'intelligence artificielle, l'énergie, le climat, les transports. Il y a pas mal de choses que l'on évoque dans cette émission. Donc là, c'était un petit peu particulier sur les chats, mais je vous l'avais promis il y a 15 jours. Donc il était totalement évident aujourd'hui que je vous propose cette émission particulière. On revient samedi prochain sur l'antenne de Graphite pour continuer ensemble à nous informer de l'actualité scientifique. D'ici là, bien sûr, vous nous suivez sur la bande FM, hein, 94.9, pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, bien évidemment, et graphite.net, le site internet qui vous permet également de nous suivre, soit en direct, soit en différé, parce que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite, bien évidemment. Rediffusion de cette émission mardi matin à 10h, donc bonne matinée si vous nous écoutez mardi matin, bonne fin de journée si vous nous écoutez le samedi après-midi, bonne nuit si vous avez la possibilité de nous écouter en podcast en pleine nuit dans votre lit, allez savoir pourquoi pas. On se retrouve samedi prochain. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Et d'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. À bientôt. Au revoir.